Donc c'est la deuxième rencontre. L'objectif de ces rencontres, c'est de mieux comprendre ce qu'est la Bible et surtout ce qu'il y a dans la Bible. Alors, cet après-midi, ce soir, je vais prendre deux temps différents. Un premier temps, de manière plus générale, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible ? Et puis ensuite, on commencera par le début. Qu'est-ce qu'il y a au début de la Bible ? D'abord, la Bible, elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire, c'est l'histoire d'un peuple qui cherche Dieu. Un peuple qui ne sait pas qui est Dieu, qui en entend parler, Dieu se révèle à lui, mais au fur et à mesure que Dieu se révèle à lui, ce peuple ne comprend toujours pas. C'est un peu comme nous. Dieu se révèle à nous, mais nous ne savons toujours pas qui est Dieu. Jésus se révèle à nous, et nous ne savons toujours pas qui est le Christ. Nous sommes toujours à la recherche, parce que Dieu est si grand qu'il ne peut jamais rentrer dans nos intelligences ou dans nos cœurs. Il dépasse complètement nos idées, nos manières de parler, et on pourrait écrire autant de livres que le monde pourrait en contenir, on n'aurait pas encore dit qui est Dieu. On pourrait écrire des milliards et des milliards de livres sur Dieu, ce serait encore pas Dieu, parce que Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer et penser. Eh bien, la Bible, c'est une recherche de Dieu par le peuple de Dieu. La Bible, elle nous fait peu à peu comprendre qui est Dieu. Elle nous fait comprendre qui est Dieu. Et ce peuple, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, il comprend davantage, il comprend mieux, et Dieu se manifeste d'une manière plus claire. Enfin, plus claire. Jusqu'au moment où il va s'incarner, c'est-à-dire où il va prendre chair, où il va prendre notre humanité, et c'est la personne de Jésus. Alors là, c'est un peu plus clair. Mais en même temps, la personne de Jésus qui révèle Dieu, qui dit qui est Dieu, ben nous savons bien que nous ne pouvons pas non plus l'exprimer dans nos mots, ni même dans les livres. Et à la fin de l'évangile de Jean, il est dit que, oh là là, il y a encore bien des choses que Jésus a faites, tous les livres du monde ne suffiraient pas pour le raconter. Donc à la fin d'un des évangiles, le quatrième évangile, l'évangile de Jean, l'écrivain qui a écrit cet évangile, Jean, il prend la précaution de dire, vous savez, tout ce que j'ai dit, c'est un petit peu de Jésus. Parce qu'en fait, il faudrait des tas d'autres livres pour raconter tout ce qu'il a fait. Donc la Bible nous fait comprendre un peu qui est Dieu. Et je vais prendre 5 points très rapides qu'on peut dire qui est Dieu d'après l'Ancien Testament, d'après le Premier Testament, d'après la Première Alliance, d'après ce que nous appelons habituellement dans nos églises l'Ancien Testament. D'abord, Dieu, c'est quelqu'un qui vient à la rencontre de l'homme. Il vient à notre rencontre. Vous vous rappelez, lorsque le peuple de Dieu est en esclavage en Égypte, le peuple crie vers Dieu, c'est plus possible, on souffre trop. Alors, Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. C'est dans le livre de l'Exode, dans le deuxième livre de la Bible. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai vu, j'ai entendu sa clameur, j'ai entendu ses cris. C'est pourquoi je vais descendre pour le libérer, ce peuple. Et Dieu descendra comment ? Il descendra par l'intermédiaire de Moïse, c'est-à-dire qu'il demandera à Moïse de se faire le libérateur du peuple. On verra ça plus tard, la prochaine fois sans doute. Donc Dieu vient à la rencontre. Le peuple souffre. Dieu reste pas dans son ciel comme ça, à regarder de loin. Ces pauvres gens, ils souffrent, c'est dommage. Non, Dieu vient. Il vient à la rencontre. Ça, c'est très, très important. Notre Dieu est un Dieu qui vient à notre rencontre. Donc, c'est la première chose, hein, la rencontre. C'est-à-dire qu'il se donne à connaître. Il se donne à connaître. Il se donne à comprendre. Il ne reste pas inconnu, caché. Alors, bien sûr, on ne le voit pas. Moi, en ce moment, je vous vois. Je vois Bernard, je vois Michel, je vois Micheline, je vois Jean-Luc, etc. Je vous vois. Bien sûr, on ne voit pas Dieu comme ça. Mais Dieu se donne à connaître par les autres humains, par tous ceux qui nous entourent, et par la nature aussi. Les montagnes chantent la gloire de Dieu, nous disent les psaumes. Les montagnes chantent la gloire de Dieu. Donc, regarder les montagnes, c'est voir un peu de Dieu, mais évidemment, si peu, mais un peu. Regarder les autres êtres humains autour de nous, c'est voir un peu de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons été faits, créés à son image et à sa ressemblance, comme il est dit au début du livre de la Genèse. Donc, un Dieu qui se donne à connaître, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui vient à notre rencontre. Première chose. Deuxième chose. Dieu, quand il vient à notre rencontre, ne se contente pas de venir et puis de réparer ce qui ne marche pas, de dire à Moïse, écoute, tu vas libérer le peuple, comme ça le peuple sera libre, il ne sera plus en esclavage. Non, Dieu vient faire avec nous une alliance. Voilà la deuxième chose, très importante. Une alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance ? C'est deux parties. Par exemple, si un homme fait alliance, si un pays fait alliance avec un autre pays,
c'est l'union.
Ça veut dire que c'est l'union. Les deux pays s'unissent, les deux pays se mettent d'accord. Les deux pays font une sorte de contrat. Voilà ce que moi je vais faire et voilà ce que tu feras pour que nous nous entendions bien, pour que nous ne nous fassions pas la guerre. Il y a une alliance comme ça entre pays pour que nous ne nous fassions pas la guerre. Eh bien, Dieu vient à notre rencontre et il fait avec nous une alliance. C'est-à-dire qu'il dit, toi, tu seras mon peuple et moi, je serai ton Dieu. Tu seras mon peuple, je serai ton Dieu. Une alliance. Et l'alliance, dans le mariage entre un homme et une femme, l'alliance entre deux groupes d'amis qui font alliance pour aller faire un voyage, l'alliance entre deux pays, c'est une image. Ça peut nous faire comprendre ce qu'est l'alliance entre Dieu et son peuple, entre Dieu et chacun de nous. Une alliance. Il fait alliance. Et quand on fait alliance, on est vraiment avec celui avec qui on fait alliance. Si deux pays se font alliance, ben, oui, souvent on fait des échanges. Vous voyez, juste après la Deuxième Guerre mondiale, oui. Il y a la guerre entre la France et l'Allemagne. Oui. Il y a une alliance qui est faite entre l'Allemagne et la France. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? On fait des échanges. Il y a des jumelages. Il y a tel village qui fait une alliance avec un autre petit village en Allemagne. La même chose entre l'Allemagne et la France. Pourquoi ? Parce que si on fait alliance, on veut mieux se connaître. On veut mieux se connaître. Donc, alliance. Dieu vient à notre rencontre. Dieu fait alliance avec nous. Tu es mon peuple. Je suis ton Dieu. On reviendra plusieurs fois sur l'alliance parce que c'est dans la Bible le point le plus central de la révélation biblique. Dieu fait alliance avec son peuple. Le Christ fait alliance avec chacun de nous. Troisième chose sur la révélation de Dieu dans la Bible. Le peuple de Dieu, il est sans cesse infidèle. Dieu lui parle, mais il n'écoute pas. Dieu lui dit des choses, il fait le contraire. Le peuple est infidèle. Et Dieu, il est sans cesse fidèle. Et plein de miséricorde. Alors, vous vous rappelez que dans les groupes de la pierre d'angle, on a passé une année entière sur la miséricorde.
Oui, c'est vrai. Je trouve une question aujourd'hui. Oui. J'ai du mal à dire ce que le sens du mot miséricorde.
Alors, justement, la miséricorde, ça vient de deux mots latins. Il y a un mot qui signifie. Ah, bonjour.
Baptiste.
Bonjour.
Vas-y.
Vas-y, bonjour. Alors, le mot miséricorde, ça vient de deux mots latins. Un mot qui veut dire la pauvreté, la misère. C'est le même mot en latin, misère. Et puis, corde, ça vient du mot latin cor, cordis. Tu vois, cordis, toi, ça a donné corde, qui veut dire le cœur. La miséricorde, c'est le cœur qui se penche sur la misère humaine. Quand on dit que Dieu est miséricordieux, ça veut dire que, exactement ce que je disais quand Dieu vient à la rencontre, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple, dans Exode chapitre 3, c'est exactement une définition de la miséricorde. Dieu voit avec le cœur la misère du peuple. Donc, voilà la miséricorde. Ce que veut dire la miséricorde. Ce que veut dire, il y a un deuxième sens de la miséricorde dans la Bible, c'est que le mot miséricorde, c'est un mot latin, mais dans la Bible, en hébreu, le mot miséricorde, ce sont les viscères. Ce sont ce qui... Alors, lorsque Dieu est miséricordieux, ça veut dire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que les entrailles de Dieu se retournent. Oui, comme quand quelque chose est difficile dans notre vie, on a mal à l'estomac.
C'est vrai.
Oui. On a mal au ventre. On dit là, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac.
Mettre toutes ces tripes dans
un effort. Voilà, voilà. Voilà. Les tripes de Dieu se retournent. Et donc Dieu est bouleversé. Et plusieurs fois dans la Bible, surtout dans le prophète Isaïe, mais ça c'est quelque chose qu'on verra les fois suivantes, on dit que Dieu, l'intérieur de Dieu est retourné. Dieu est retourné. Il est retourné par quoi ? Par la situation du peuple. Il est bouleversé. Et c'est ça la miséricorde. Donc il y a deux sens de miséricorde. Hein. C'est le cœur qui se penche vers la misère, notre misère à nous. Et puis, il y a les viscères de Dieu qui se retournent. Et plusieurs fois, dans les évangiles, 11 fois exactement, au sujet de Jésus, on dit que Jésus aussi, il a les viscères qui se retournent. Et c'est la miséricorde. C'est ce qu'on traduit habituellement dans les textes qu'on lit dans l'Église par « il a eu pitié ». Mais il a eu pitié, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, il a eu pitié, c'est « ses tripes se retournent ». Il a mal au ventre. Il voit un lépreux et il en a mal au ventre. Il se trouve un jour, et puis il y a une foule qui est devant lui, et il a mal au ventre de voir cette foule. Voilà, c'est la miséricorde. Donc, tu vois, un fidèle est miséricordieux. Donc, face à l'infidélité du peuple, je disais, Dieu... Il est fidèle et il est plein de miséricorde. Il est fidèle, c'est-à-dire que il dit pas ben, « le peuple me quitte, le peuple ne veut pas m'entendre, le peuple fait le contraire de ce que je lui dis, alors je le laisse tomber ». Non, il continue. Il prend le peuple tel qu'il est et il continue à lui parler et il continue à lui indiquer le chemin. Et il est plein de miséricorde, c'est-à-dire qu'il lui pardonne. Donc Dieu n'en veut jamais au peuple. De temps en temps, dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, de temps en temps on dit « Dieu est en colère ». Le texte, vraiment le texte hébreu dit que
la moutarde
lui monte au nez, oui.
Oui, c'est vrai.
c'est exactement ça dans l'hébreu. C'est-à-dire que la colère est dans le nez de Dieu. La colère est dans le nez de Dieu. On pourrait traduire en français, la moutarde lui monte au nez. Donc de temps en temps, la moutarde monte au nez de Dieu. De temps en temps, Dieu dit, je vais détruire ce peuple, parce que j'en ai marre de ce peuple. Mais c'est parce que Dieu aime tellement le peuple que ça lui fait mal. Et si quelque chose me fait mal, je dis, mais je vais lui donner un coup de poing à ce gars qui m'énerve. Mais Dieu est tellement miséricordieux que sa colère se transforme en miséricorde. Sa colère se transforme en miséricorde. Dieu ne serait pas attentif à qui on est si, lorsque l'être humain se rebelle contre Dieu, dit non à Dieu, Dieu disait, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Ces humains-là, ils m'intéressent pas. Non ! Les humains intéressent tellement Dieu que lorsqu'ils font le contraire de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, de ce qu'il espère, alors les choses vont mal à l'intérieur de Dieu. Mais au lieu de cogner, il pardonne. Et la colère de Dieu, c'est son pardon. Vas-y.
Il y a des répercussions.
Oui.
Moi, je pense que quand on sent, quand on fait mal par rapport à Dieu, il y a toujours des répercussions. En tout cas pour moi, si je fais quelque chose de mal, moi je le sens.
Tu as des répercussions en toi.
Voilà.
Voilà, tu le sens. Voilà.
Bon. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit penser de moi?
Ouais.
c'est vrai, ça, voilà. Ça fait quelque chose.
Voilà. Bon.
C'est vrai que c'est souvent les jumeaux, les préjugés qui avaient beaucoup de contrariétés internes.
Un quoi, tu dis?
Je pense que c'est souvent les jumeaux, les préjugés qui avaient beaucoup de contrariétés internes.
Les jugements, les préjugés.
Les jumeaux, les jumeaux des autres, avaient beaucoup de quand on ressort pas par le, comme vous dites, quand on n'exprime pas par quand on a reçu cette dit moi je suis préjugé par la colère, je pense. Intérieurement, c'est vrai,
ouais,
ça fait pas du bien,
je pense. Oui, bon,
voilà. Mais moi, je savais pas que c'était marqué Dieu,
la moutarde ne m'a pas. Oui, la colère est dans le nez de Dieu. Hein, dans la Bible, on ne peut pas parler de Dieu autrement qu'avec des mots humains. Comment parler de Dieu en dehors qu'avec nos mots? Hein, on a nos mots. Donc, du coup, on parle de Dieu comme si c'était un homme. En fait, on sait bien que c'est pas un homme, que c'est Dieu. Mais c'est qui Dieu? Nous savons pas. Et je sais pas si vous vous rappelez ce qui était dans le groupe de la pierre d'angle, une voix de fin silence.
Ah ouais.
Ou une brise légère, si vous préférez. Une voix de fin silence. C'est-à-dire, c'est une voix. Oui, vous entendez ma voix. Mais là, c'est une voix de fin silence. C'est-à-dire qu'une voix qu'on n'entend pas. Et pourtant, c'est une voix. C'est-à-dire, on essaie d'exprimer, là, hein, c'est dans l'histoire du prophète Élie, l'auteur du texte, du premier livre des rois, il essaie d'exprimer que Dieu, eh bien, on l'entend, mais en même temps, on ne l'entend pas. Une voix de fin silence. Alors, oui, Jean-Luc.
J'ai une paix qui a été tutoyée, qui est passé dans la gare en Suisse avec une dame dans la parterre, qu'on est en voiture. Et on s'est baladé en montagne un jour. Et j'étais avec le prêtre, un monsieur, un prêtre qui s'appelle Marc. Mais on était en hauteur, je crois assez haut, pas trop, mais 2400 mètres d'altitude, et en fait, on voyait un très bon roulant. Et ce patron-là qui était à côté, moi j'étais à sa gauche. Et il va le voir. Et je lui ai posé la question comme ça, qu'est-ce que pour vous Dieu? Et c'est vrai qu'il n'a pas. Je crois qu'il n'a pas su quoi répondre. Il n'a pas dit pour vous. Je ne sais pas.
Bon.
C'est pas qu'il ne savait pas sur vous. Peut-être qu'il voulait me transmettre un message parce que. Je crois qu'il m'avait dit que c'est une grande question.
Oui. Donc c'est vrai que Dieu est une grande question. Et la Bible nous donne des indications qui nous permettent de dire, ben voilà, il peut être ça, il est encore ça, il est encore ça. Et comme je disais tout à l'heure, les milliards de livres qui pourraient s'écrire sur Dieu n'épuiseraient pas qui est Dieu. Alors, Je disais, Dieu, c'est quelqu'un qui vient à notre rencontre dans la Bible. C'est quelqu'un qui fait alliance avec nous. C'est quelqu'un qui est fidèle et miséricordieux. Quatrième élément, et il y en aura cinq, c'est quelqu'un qui agit dans notre histoire. Il agit. Il agit dans notre histoire. C'est un peu la même chose que quand il vient à la rencontre, quand il fait alliance, mais c'est au niveau de l'action. Il agit vraiment dans l'histoire. Donc ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu caché, ce n'est pas un Dieu imaginaire, c'est un Dieu qui agit. On peut le savoir dans notre propre vie. Quelquefois, il peut arriver qu'on a l'impression que Dieu agit en nous. Que Dieu agit en nous. Alors souvent, on s'en rend compte après. On dit, tiens, mais pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est Dieu qui agit en nous. Je vais vous prendre un petit exemple qui peut vous arriver, mais souvent on ne le remarque pas. Vous voyez, vous n'avez pas le moral un dimanche matin,
c'est vrai.
Et vous allez quand même à la messe. Vous allez à la messe, ça peut être un lundi ou un mardi, ça n'a pas d'importance. Hein. On va à la messe quand on peut et quand on veut. Vous allez à la messe, alors j'imagine, un dimanche. Vous n'avez pas le moral. La messe dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Vous sortez de l'église et vous vous sentez tranquille, paisible. Ben, Dieu a parlé. Voilà l'action de Dieu dans ma vie. L'action de Dieu dans notre vie, c'est pas... Rappelez-vous le texte du premier livre des Rois que vous avez vu la dernière fois dans où il y a deux mois dans le groupe de la pierre d'angle, Dieu n'était pas dans l'ouragan, il n'était pas dans le vent,
ouais,
il n'était pas dans le tremblement de terre.
Ouais, connais ça.
Alors nous, évidemment, on préférerait que Dieu il dise hey, toi, fais ça, qu'au moins on l'entende. Alors au moins ce serait clair, on ne pourrait pas passer à côté. Non, il est dans une voie de fin silence. Il n'est pas dans l'ouragan, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu. Ça se voit, ça fait du bruit, c'est grandiose. Non, il est dans la voix de fin silence. Une voix qu'on n'entend pas et que pourtant on entend. Vous sortez de l'église et vous vous sentez tranquille, paisible. Dieu a parlé. Ça s'entend, ça se voit, ça se sent, mais en même temps, ça ne fait pas de bruit. Bon, Dieu qui agit dans notre histoire. Il agit. Et on verra ça au cours des mois qui viennent, hein, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, Dieu agit. Il agit toujours par des êtres humains. Dieu, ce n'est pas un magicien. Vous voyez, un magicien, ce serait, si Dieu était un magicien, ça voudrait dire qu'il prendrait une baguette magique, et puis il dirait, voilà, il y a la guerre en Syrie, il n'y a plus de guerre. Il y a du terrorisme en France. Il n'y en a plus. Ça, ce serait un magicien. Eh bien, Dieu n'est pas un magicien. Dieu, il dit à nous tous, hommes, femmes et enfants, eh bien, fais telle chose. Agis bien. Respecte ton prochain. Aime le prochain comme toi-même. Et c'est par nous que Dieu intervient. Donc vous voyez, chaque fois qu'on se dit, oui mais alors, attendez, s'il y avait un bon Dieu quelque part, il n'y aurait pas de guerre. Ah mais, non, s'il y avait des hommes et des femmes et des enfants qui s'aiment les uns les autres, il n'y aurait pas de guerre. La guerre, c'est pas, Dieu n'est pas dans la guerre, Dieu n'est pas dans le mal. S'il y avait des hommes, des femmes et des enfants qui s'aiment, il n'y aurait pas de guerre. C'est pas s'il y avait un bon Dieu quelque part, il n'y aurait pas de guerre. Il y a un bon Dieu quelque part. Mais il n'y a pas d'hommes et de femmes et d'enfants qui s'aiment. C'est ça le problème. C'est pas Dieu le problème, c'est nous. Alors on veut tellement pas voir que le problème c'est nous, que du coup on dit, bah, c'est la faute de Dieu. Au fond, si Dieu existe, il ferait bien quelque chose. pour tous les enfants, tous les hommes, toutes les femmes qui meurent à travers le monde de faim, de guerre, de haine, de violence. Mais oui, bien sûr, si les hommes, les femmes et les enfants écoutent Dieu qui leur demande de s'aimer les uns les autres. Le responsable, c'est nous, c'est pas Dieu. Donc, Dieu agit dans notre histoire. Cinquièmement, mais vous voyez que tout ça, ça dit un peu la même chose, parce que dès qu'on parle de Dieu, tout est relié. C'est un Dieu qui n'est pas lointain, mais notre Dieu est un Dieu qui est proche. La proximité de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est « Je suis au milieu de vous », dit Dieu à son peuple. « Je suis au milieu de vous ». Et dans le Nouveau Testament, à la fin de l'Évangile de Matthieu, Jésus dit à ses apôtres « Je suis avec vous pour toujours ». « Je suis avec vous pour toujours ». Donc Dieu, il est proche de nous. Proche, un Dieu proche, encore une fois, pas un Dieu lointain. Donc la rencontre, l'alliance, la fidélité et la miséricorde, d'ailleurs la fidélité et le pardon, une action dans notre histoire, Dieu agit. Il agit comment ? Par nous. Il y a le peuple, rappelez-vous, je le disais tout à l'heure, le peuple est en esclavage en Égypte, livre de l'Exode, en esclavage en Égypte. Dieu dit « J'ai vu, c'est pourquoi je vais descendre. » Alors on peut s'attendre que Dieu va arriver, il va prendre sa baguette magique et il va dire « L'esclavage est fini. » Non, il dit à Moïse « Va voir Pharaon. » « Va voir Pharaon. » Et dis-lui de libérer mon peuple qui est en esclavage en Égypte. Donc il se sert de Moïse. Moïse ne comprend rien. Moïse dit « Oh là là, mais moi je bégaye, donc je ne saurais pas parler à Pharaon. » Alors Dieu dit, écoute, c'est pas difficile, tu vas te servir de ton frère qui s'appelle Aaron. Et c'est Aaron qui parlera à ta place. Donc Dieu est malin. Dieu fait en sorte que Moïse soit vraiment l'intermédiaire et qu'il soit le libérateur du peuple. Donc, rencontre, alliance, fidélité et miséricorde, action dans l'histoire et puis la proximité. Dieu est un Dieu proche. Alors, encore quelques instants, c'est le deuxième point de la soirée. Vous savez qu'un livre, il y a un commencement et une fin. Il y a la page 1, et puis il y a la page 300, 600, ou bien 1200, comme dans la Bible. C'est peut-être même plus que 1200. Oui, c'est plus que 1600. Donc, de la page 1 à la page 1600. Donc, le premier mot de la Bible, c'est « au commencement ». Ça tombe bien, le premier mot de la Bible dit « commencement ». Et c'est le livre de la Genèse. Et Genèse, c'est un mot qui veut dire « commencement ». Donc, « au commencement ».
Il peut être incessant le commencement. Il peut être incessant le commencement.
Alors, il peut être, oui, absolument. Mais justement, le commencement, il est chaque jour. Et le dernier mot de la Bible, je vais vous dire ce que c'est. Le dernier mot de la Bible, c'est « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. » La grâce, ça veut dire quoi ? C'est un mot un peu difficile. La grâce, ça veut dire le don de Dieu. Que le don de Dieu, que le don de Dieu, que le don du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Donc, au commencement, et puis que le don de Jésus soit avec nous. Amen. Alors, on va commencer par le commencement. Le commencement, c'est le livre de la Genèse. Il y a 5 premiers livres. Ces 5 premiers livres, ce sont les livres que les Juifs appellent la loi, la Torah. Lorsque les Juifs parlent de la loi, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Après, il y a les livres historiques qui racontent l'histoire du peuple, avec les rois, les juges. Et puis il y a les livres prophétiques. Puis dans les livres historiques, il est compté aussi les psaumes et les livres de sagesse. Donc pour l'instant, je vais regarder les 5 premiers livres. Et on va se concentrer sur le premier livre, qui s'appelle le livre de la Genèse, le livre du commencement. Il y a 2 commencements. Il y a un premier commencement, c'est la création. La création. Les 2 premiers chapitres de la Genèse. Les 2 premiers chapitres du livre, la création. Alors attention, dans la Bible, on ne nous dit pas comment ça s'est passé, mais pourquoi ça s'est passé. Vous voyez, la création, on nous dit qu'il y a 7 jours. Mais la Bible ne nous dit pas le monde a été créé en 7 jours, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La Bible nous dit, rien de ce qui existe, même vous, vous n'en êtes pas les créateurs. C'est ça que dit la Bible. Pour nous dire ça, eh ben elle dit, ça se passe en une semaine. Vous voyez que Dieu n'a pas créé 1, 2, 3, 4, 5. C'est si vrai que Dieu dit, il a séparé les ténèbres de la lumière. Et puis après avoir séparé ténèbres et lumière, il y avait déjà de la lumière, voilà qui crée le soleil. Un autre jour. Il faudrait savoir, il y a de la lumière ou il n'y en a pas. Donc ça veut dire autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis, je ne suis pas le créateur. Je ne me suis pas créé moi-même.
C'est incommensurable.
Oui. C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas la mesure du monde. C'est pas moi qui ai créé les montagnes, c'est pas moi qui ai créé les étoiles, c'est pas moi qui me suis créé moi-même. Je viens toujours d'un autre. Alors je sais que je viens de ma mère, et au fond des choses, je crois que je viens de Dieu. Mais encore une fois, il ne faut pas imaginer Dieu une baguette magique. Toum, premier jour. Toum, deuxième jour. C'est pas comment ça s'est fait, c'est le sens. La Bible nous donne le sens. Et ça, c'est vrai pour toute la Bible. Voilà. C'est-à-dire le sens. Alors donc, on commence par la création. Tout vient de Dieu. Ensuite, il y a Adam et Ève. Et ils ont 2 enfants. Qui s'appellent Abel et Caïn. Donc on se dit, ce sont 2 frères, c'est la fraternité. Les 2 frères, ils ne peuvent que s'aimer. Manque de chance, on sait bien d'ailleurs, c'est que les frères et les sœurs ne s'aiment pas toujours. Quelquefois, ça fait même du bazar. Du bazar, ça veut dire c'est la guerre. Et c'est ce que nous racontent Abel et Caïn. Caïn est jaloux d'Abel. On nous dit même que, dans la Bible, on nous dit Caïn dit à Abel 2 points et puis il n'y a rien après. C'est-à-dire que Caïn n'arrive pas à parler à Abel. Il n'arrive pas à se parler. Donc la Bible nous dit, les 2 frères, Caïn est jaloux d'Abel, Caïn n'arrive pas à parler avec Abel, alors il tue Abel. Et donc tout à fait au début de la Genèse, c'est au chapitre 4. C'est le premier livre de la Bible et c'est le chapitre 4. Au début de la Bible, il y a un meurtre. Le meurtre d'Abel et de Caïn. On va se dire, Dieu va être furieux. Dieu va punir. En fait, Dieu va protéger Caïn. Dieu va protéger Caïn. Dieu va dire, ben, maintenant tu vas errer dans le monde. Tu n'auras plus de maison fixe. Mais je te protégerai personne ne pourra mettre la main contre toi. C'est le premier acte de miséricorde de Dieu, après le meurtre d'Abel par Caïn. Donc, vous retenez ce qu'il y a dans la Bible. Il y a d'abord la création. Ensuite, Abel et Caïn. Au fond, le monde est beau, l'homme et la femme sont beaux, mais la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se tuent. Abel tue l'humain. Abel est tué par Caïn. Ensuite, les hommes et les femmes continuent de vivre. Ils font des enfants, il y a des générations. Mais le mal vient sur la terre. Le mal, c'est toujours l'être humain qui est contre l'autre être humain. C'est ça le mal. C'est ne pas aimer son frère ou sa sœur. C'est ça le mal. La guerre, c'est ça. La guerre, c'est pas une bombe qui tombe sur une ville. La guerre, c'est des hommes et des femmes qui ne s'aiment pas les uns les autres. La conséquence, c'est qu'on jette une bombe. Mais la guerre, c'est des hommes et des femmes qui ne s'aiment pas les uns les autres. Alors, le mal vient dans le monde. Dieu dit, j'en peux plus de cette humanité. Je vais faire pleuvoir. Et c'est le déluge. J'ai déjà entendu parler du déluge. C'est le déluge. Je vais faire pleuvoir pour que tous ces hommes qui font le contraire de ce qu'il faut faire n'existent plus. Mais Dieu se repent. Dieu, encore une fois, est miséricordieux. Il dit, je vais garder Noé et sa famille. Et un couple de chaque animal sur la terre. Alors, n'imaginez pas Noé, moi je suis Noé, et puis je vais chercher deux girafes, deux colombes, deux éléphants, deux lions, deux rhinocéros, deux panthères, deux guépards, deux moineaux, deux souris, deux rats, deux serpents. Non. C'est une manière de dire que Dieu a sauvé la terre. Il a sauvé la terre. Alors comment l'exprimer ? En disant qu'il a choisi Noé, et puis que Noé a pris des animaux et qu'il a mis dans l'arche. Vous vous rappelez l'arche de Noé ? Donc, il y a de l'eau partout sur la terre, une grande inondation, l'arche, elle flotte, et Noé, au bout d'un certain temps, il se dit, mais il ne pleut plus. Alors, il envoie une colombe, et la colombe revient avec un morceau d'olivier. Noé se dit, ça y est, l'inondation est vraiment finie, Noé sort. Et quand Noé sort, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un arc dans le ciel, l'arc-en-ciel. Un arc, c'est avec un arc qu'on fait la guerre. Ça veut dire que l'arc de Dieu, il est dans le ciel. L'arc de Dieu est dans le ciel. Dieu fait la paix, Dieu fait l'alliance, et il y a une alliance avec Noé. C'est la première alliance. Très très vite, dans l'Ancien Testament, il y a déjà l'alliance. Souvent, on parle de l'alliance avec Abraham ou avec Moïse. Il y a déjà une alliance avec Noé, qui est une alliance avec tous les humains de la terre, quelle que soit leur religion. Voilà, l'alliance avec Noé. Oui, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, c'est vraiment le mot arc, c'est vraiment l'arc pour faire la guerre, avec une flèche, voilà. Et cet arc-là, qui est l'instrument de la guerre, il est mis dans le ciel pour créer de la lumière. C'est l'arc-en-ciel, c'est le signe de la paix. Et c'est le signe de l'alliance avec Noé. Le signe de l'alliance de Dieu avec Noé, c'est l'arc-en-ciel. Dieu dit, je mettrai mon arc dans le ciel. Je mettrai mon arc dans le ciel. C'est ça que dit le texte dans la Bible. Je mettrai mon arc dans le ciel. Nous, ensuite, on a dit un arc-en-ciel. On ne pense plus à arc-en-ciel. Arc-en-ciel, ouais, c'est comme ça, c'est de toutes les couleurs. Oui, mais c'est vraiment l'arc. C'est le signe de la paix. Dieu fait la paix avec le peuple.
Si quand il se manifeste, alors si j'ai bien compris, quand oui. Il y a des arcs-en-ciel maintenant, donc on peut imaginer qu'il se manifeste.
Ah ben oui, tu peux avec la foi, tu peux te dire, ben voilà un signe, c'est le signe qui était donné à Noé, c'est le signe de la paix. Alors concrètement, l'arc-en-ciel, c'est quand il pleut et qu'il y a du soleil, hein, voilà, et ça fait ce phénomène d'arc-en-ciel. Mais tu peux dans la foi te dire, ah ben Seigneur, merci, parce que tu es vraiment le Dieu de la paix. L'arc-en-ciel, c'est le signe de la paix et le signe de l'alliance avec Noé, la première alliance. Donc la création, Caïn et Abel, un meurtre. La fraternité commence avec un meurtre. Caïn et Abel, ce sont les premiers frères. C'est la première fois qu'il est question de fraternité dans la Bible. Et ça commence par un meurtre. Vous voyez, juste une petite explication. Comment est-ce qu'on est arrivé à raconter cette histoire d'Abel, de Caïn et d'Abel? Les gens, ils se sont demandé, pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on se fait la guerre? Pourquoi on se tue? Pourquoi on se tape? Pourquoi on se vole? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. On dit, on ne sait pas. Alors on raconte une histoire. Et on dit, en fait, voilà, dès l'origine, ça n'allait pas. Et il y a deux raisons. C'est la jalousie et l'absence de parole. Caïn dit à Abel, deux points, et puis il n'y a rien. Dans nos Bibles, on a rajouté quelque chose. Dans le texte original, il n'y a rien. Dans nos Bibles, on a rajouté quelque chose parce qu'on ne supporte pas le silence. C'est intéressant. Nos traductions ont rajouté quelque chose. Mais dans le texte hébreu, il n'y a rien. Il y a l'absence de parole. La jalousie et l'incapacité de parler à l'autre. Vous voyez ? Bon, eh bien, réfléchissez dans votre cœur, vous voyez, la jalousie, et puis on ne peut plus parler à l'autre. La guerre, ça vient de la jalousie, et on ne peut pas se parler. Car dès qu'on se parle, il y a alliance. Dès qu'on n'est plus jaloux, on s'entend. Et c'est plus la guerre. Si on est jaloux, ah ben t'as ça, je te tue pour l'avoir. Et la guerre entre les peuples, c'est ça. Je te tue pour avoir le pétrole. Je te tue pour avoir ton territoire. Je te tue pour avoir ce que tu as.
Le silence peut aussi être protégé.
Oui, alors le silence peut, évidemment, bien sûr. Le silence est bon. Pour chacun de nous, le silence est bon. Il faut du silence pour vivre. Mais là, ce n'est pas le silence, le bon silence. C'est un silence qui est « je ne peux pas te parler hein, ». Je ne peux pas te parler. Donc, création. Caïn et Abel, le déluge avec Noé. Et puis enfin, quatrième grand événement, dans les 11 premiers chapitres de la Bible, ça c'est dans les 11 premiers chapitres, c'est un grand événement au chapitre 9, c'est la tour de Babel. La tour de Babel. Babel, c'est Babylone. Babylone, c'est Bagdad aujourd'hui, en Irak. La tour de Babel. Les gens se disent, on va mettre brique sur brique pour faire une tour qui atteigne le ciel. On veut devenir aussi grand que Dieu. On veut aller jusqu'au ciel. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et les gens ne peuvent pas s'entendre pour construire cette tour. Alors ils se dispersent. Chacun ayant sa propre langue. Ça veut dire quoi, chacun ayant sa propre langue? Ça veut dire qu'on ne se comprend plus. Oui. Moi, s'il y a un Chinois qui rentre dans la pièce, il me parle chinois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a un Japonais qui rentre dans la pièce, il parle japonais, je ne comprends pas. Et la tour de Babel, c'est ça. Les gens qui veulent construire cette tour, finalement, ils se séparent les uns des autres et ils parlent tous une langue différente. Donc, ils ne se comprennent plus. Et il y a l'inverse de la tour de Babel dans le Nouveau Testament. Et c'est la Pentecôte.
Ah,
la Pentecôte, tous les gens qui sont devant Pierre, tous les gens qui sont devant la maison où l'Esprit Saint vient comme un grand coup de vent, et puis où il y a les langues de feu qui descendent sur les apôtres, tous les gens y comprennent ce que disent les apôtres, alors qu'ils sont de langues différentes. Et on nous dit dans le texte, je vais vous le lire parce que c'est un très beau texte en plus. Donc c'est au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Alors écoutez bien, il y avait des hommes pieux devant la maison, qui étaient à Jérusalem, ils étaient venus pour une grande fête, ils avaient des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, de toutes les nations qui sont sous le ciel, donc des langues différentes. Alors, comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Les apôtres, ils se mettent à parler. Et ils les entendent dans leur langue maternelle. Parthe, Mède, Élamite, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte, et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en séjour ici, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. C'est exactement l'inverse de la tour de Babel. La tour de Babel disperse en différentes langues, donc si on ne se comprend pas, c'est comme Caïn et Abel, ouais, si on ne se comprend pas, on ne peut pas se parler, du coup on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas dire oui mais attends, on peut peut-être faire une alliance, on peut s'entendre finalement, on ne peut pas puisqu'on ne se comprend pas. Il y a un Chinois qui arrive ici, il me dit on va faire un marché ensemble, et moi je ne le comprends pas, donc je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez, mais il ne comprend pas ce que je lui dis, donc on ne peut plus se parler. On est comme Caïn et Abel. Peut-être on ne va pas se tuer, mais on ne peut pas se parler. Et l'inverse, la solution, c'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres et qui fait que les apôtres sont compris par tout le monde. Il n'y a plus la séparation des langues par le don de l'Esprit Saint.
Et en ce moment, tout le monde connaît les langues de chaque. Tout le monde parle les langues de chaque. Tout le monde parle anglais, tout le monde parle arabe, tout le monde parle français. Donc on arrive tous à rentrer en communication.
Oui, alors là, le texte ne nous dit pas que les gens qui sont là, qui ont différentes langues, mettons qu'il y ait 15 langues différentes hein, devant la maison des apôtres, on ne nous dit pas qu'ils parlent des langues étrangères, mais qu'ils comprennent.
Oui, mais c'est justement, est-ce que la Bible n'est pas aussi le c'est moi.
Oui, oui.
Est-ce que c'est pas ce qui peut nous projeter dans un avenir ? Elle ne projette pas pour nous montrer que, en fait, si ça peut être des métaphores, si le peuple ne s'entend plus, les gens ne s'entendent plus, ça finira en guerre.
Oui.
Donc, dans l'intérêt de tout le monde, c'est essayer de trouver un terrain d'entente,
se comprendre,
là, à partir de là, on contrôlera
tout. Oui. Tout à fait.
Est-ce que c'est pas ça que la Bible essaye à travers l'histoire de la, comme vous dites, puisque deux enfants se grandissent ensemble, mais en étant enfants, l'orgueil et l'égoïsme fait que l'un supprime l'autre.
Oui.
Mais pourtant ça, Dieu le protège.
Oui.
Mais il dit à un moment dans la Bible, il faut protéger le faible, la brebis égarée.
Oui. Oui.
Mais la brebis égarée, c'est pas l'animal, la brebis égarée.
Oui, oui. C'est chacun de nous, chacun de nous.
Et donc. Oui. Il y a quand même une interpellation.
Oui, non, mais tu as raison. La Bible, elle nous projette dans l'avenir. Elle nous dit, la solution à vos difficultés, c'est le don de l'Esprit Saint qui va faire l'unité. Hein, le signe de l'Esprit, c'est l'unité. Et le texte de la Pentecôte, au moment où l'Esprit descend, il y a l'unité de toutes les nations qui sont à Jérusalem ce jour-là à cause de la fête. Ils comprennent tout ce que disent les apôtres. Voilà. C'est le signe de l'unité, c'est le signe de l'Esprit Saint.
Hein?
Voilà.
La Bible, elle a été écrite pour les Hébreux, pour les Juifs, puisque l'histoire a commencé.
Oui, absolument,
là-bas.
Oui.
Par les Hébreux.
Mais nous, rapport à. Parce que c'est normalement, si on est logique, c'est la religion qui a été écrite pour les Hébreux.
Oui, l'Ancien Testament est un livre écrit pour les Juifs.
Le
christianisme est arrivé à nous alors que c'est ton prochain là.
Oui, ah ben alors, ça c'est une autre question, hein, mais rapidement, parce que c'est une question, c'est toute l'histoire de l'origine de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Il y a le peuple juif reçoit la loi, c'est l'Ancien Testament. La prophète, les livres historiques, il a un livre, et là il reconnaît que Dieu rencontre alliance, fidélité, action dans l'histoire, proximité. Là, il apprend peu à peu à connaître Dieu. Et peuple juif, il vit l'exil, il arrive en 100 avant Jésus-Christ, en 50 avant Jésus-Christ, aux alentours de 50 avant Jésus-Christ, il y a tout un mouvement spirituel où on se dit, on attend quelqu'un, on attend le Messie, on attend un roi, il y a l'occupation des Romains, on attend quelqu'un qui va nous libérer des Romains. Et c'est à ce moment-là que vient Jésus. Jésus vient et il annonce la bonne nouvelle. Il annonce la justice et la paix. Bienheureux, heureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Bienheureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux les purs de cœur, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Il annonce quoi ? Il annonce le bonheur. Et c'est pas en l'air, très concrètement, les gens qui rencontrent et qui vont mal, il les guérit. Donc il ne se contente pas de parler, il agit. Il fait ce qu'il dit. Il dit, heureux êtes-vous ? Ben oui, heureux êtes-vous, parce que vous qui êtes aveugles, vous qui pleurez, je vous guéris. Les gens qui rencontrent, c'est pas un magicien qui dit, désormais en Palestine, tous les gens malades seront guéris. Pas du tout. Il guérit les gens qu'il rencontre. C'est-à-dire que quand il est à Capharnaüm, il ne guérit pas les gens qui sont à Jérusalem. Il guérit les gens qui sont à Capharnaüm. Encore une fois, ce n'est pas un magicien. Donc Jésus arrive. Il se choisit des disciples. Il se choisit des apôtres. Et puis, les choses tournent mal. Il y a des adversaires de Jésus. On va tuer Jésus. On va le crucifier. On va l'assassiner. Et voici que quelques jours après, 3 jours après, nous dit l'Écriture, ils le voient, les apôtres, ils le voient vivant. C'est-à-dire que Jésus crucifié se montre aux apôtres vivant. Et vivant, mais c'est bien le même. La preuve que c'est le même, c'est qu'il montre à ses apôtres, ben voilà, voilà mes mains, voilà mon côté, c'est bien moi. Hein ? Oui, c'est là, bon.
C'est là,
oui, 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 oui. Peu importe où. Alors, c'est là. Et donc, voilà, regardez mes mains, regardez mes poignets, regardez mon côté. C'est bien moi. Alors, que font les apôtres ? Les apôtres, ils se disent, mais rappelons-nous. Hein, j'en parlais la dernière fois de ça. Rappelons-nous. Et ils se racontent les histoires. Tu te rappelles ? Il était avec Zachée. Tu te rappelles sur la colline quand il disait « Heureux vous les pauvres ?» Tu te rappelles quand il disait qu'il parlait du sel de la terre ? Tu te rappelles quand il racontait, quand il y avait des enfants autour de lui, que les apôtres, ils disaient « Oh là là, les enfants, ils font du bazar, Jésus, il a autre chose à faire que s'occuper des gamins. » Et Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Donc il se rappelle tout ça. Il se rappelle ça et il le raconte. Il le raconte dans les maisons. Il le raconte dans les synagogues. Et peu à peu, il y a une communauté qui se crée. Plusieurs communautés. À Jérusalem, à côté de Jérusalem. Puis on va un petit peu vers l'est. Et puis on va vers le nord, la Turquie actuelle, la Grèce, l'Italie. Et il y a des communautés. Puisque moi qui suis Marc, Pierre, Luc, Jean, Thomas, puisque j'ai vu Jésus ressuscité, alors je vais en témoigner aux autres. Et pas seulement à mon voisin de rue, mais aux gens qui sont dans les villes d'à côté. Et pas seulement la ville qui est à 10 km, mais la ville qui est à 600 km, qui est à 800 km. Donc les gens prennent le bateau. Et on a dans les Actes des Apôtres, qui est un livre du Nouveau Testament, on a le récit des voyages de Paul. Paul fait des voyages en bateau. Il prend le bateau. Les voyages durent longtemps. Et puis il arrive à Éphèse. Et là, il enfin dans la synagogue. Et il dit, Jésus, il a été crucifié et il est ressuscité, il est vivant et il peut nous donner la paix et la justice. Et les gens se convertissent. Et ça devient, peu à peu, le christianisme. Et donc Jésus, il ne crée pas le christianisme, ce sont les apôtres autour de lui qui témoignent de la résurrection de Jésus et qui créent le christianisme. Voilà comment ça s'est passé.
Dans les prochains lieux, il y a toute une la naissance de la Bible, tout est au Proche-Orient.
Oui.
Moi, il y a quand même une question que je m'interpelle, c'est que quand même au Proche-Orient, sont tous musulmans.
Non, pas complètement.
Ah, oui.
Une grande partie.
Bon. Oui, voilà, beaucoup sont musulmans. Oui. Oui. Ben oui. Ben voilà. De même qu'il y a un moment où l'Europe était complètement chrétienne et qu'aujourd'hui il y a plus de chrétiens en Asie ou en Amérique du Sud qu'en Europe. Ouais, c'est-à-dire que voilà, c'est le mouvement les grands courants de pensée. Aujourd'hui il y a de moins en moins de chrétiens en Europe, il y en a de plus en plus en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Voilà. Voilà, au Proche-Orient et maintenant musulman, bon, et demain il sera quoi ?
C'est le commencement de tout. C'est là où il y a le verso de la vie, en fait, le Proche-Orient.
Bon, oui, voilà. Oui, oui, oui. Bon, alors, on va terminer là. Hein. Je reprends rapidement. Le début, c'est le début de la Bible, ce sont les 11 premiers chapitres. 11 premiers chapitres, à partir du chapitre 12, c'est l'histoire d'Abraham. Et les 11 premiers chapitres, on nous raconte d'abord la création, Caïn et Abel, le déluge avec Noé, la première alliance, l'arc-en-ciel, la tour de Babel, la dispersion des humains avec des langues différentes et les gens ne se comprennent plus. Et puis, voilà qu'Abraham arrive. Alors Abraham, et je termine par ça, puis on recommencera à partir d'Abraham la prochaine fois, mais juste, je dis le début d'Abraham. Abraham, il a un père. Son père s'appelle Terah. T-E-R-A-H. Terah. Et Terah, le livre de Josué, au chapitre 24, nous apprend qu'il est fabricateur d'idoles. Donc vous avez Abraham, il habite à Ur. Et Ur en Chaldée. Donc Ur, c'est au sud de l'Irak actuel. Il habite à Ur, avec son père, Terah. Et Terah, il décide de partir. De partir en voyage. Mais c'est un voyage nécessaire, c'est un voyage professionnel. C'est parce qu'il est fabricateur d'idoles, mais c'est aussi quelqu'un qui a des troupeaux. Et pour faire paître les troupeaux, eh bien, il faut se promener pour trouver des pâturages. Et donc, il va de Ur jusqu'au nord, à Haran. C'est une autre ville qui s'appelle Haran, H-A-R-A-N. Donc, il part d'Ur jusqu'à Haran. C'est quelque chose comme 1500 ou 2000 kilomètres. Hein? Donc, ça dure très longtemps. Évidemment, ils vont à pied, oui. Pas d'avion à l'époque. Donc, et avec les troupeaux. Donc, Abraham, il a suivi son père. Et voilà que le père d'Abraham, Terah, meurt. Et à ce moment-là, Abraham, qui donc était déjà en voyage, hein, il était arrivé au nord, voilà qu'Abraham, il comprend en lui que quelqu'un lui parle. Il ne sait pas qui c'est. Abraham, Abraham, quitte ton pays. Quitte ta parenté. Et va vers un pays que je t'indiquerai. Mais où ? Dieu ne lui dit pas. Dieu ne lui dit pas où. Quitte ton pays et va vers un pays que je t'indiquerai. Lequel ? Abraham n'en sait rien. Abraham part sans savoir. Et la lettre aux Hébreux, un des derniers écrits du Nouveau Testament, au chapitre 11, nous dit que ça, c'est la foi. Et l'exemple même de la foi, pour la lettre aux Hébreux, c'est Abraham. Pourquoi ? Parce qu'il est parti il a quitté sa famille, il a quitté la ville d'Aran sans savoir où il allait, simplement parce que Dieu le lui disait. Vous voyez, vous imaginez, tiens, toi, Micheline, va vers une ville que je t'indiquerai. Ben, quelle ville ? Est-ce que c'est Lille ou Marseille ? Tu n'en sais rien.
Voilà.
Et c'est la foi. Et donc, Abraham, il va vers le sud et finalement, il va jusque en Égypte. Et suite au prochain numéro.
Alors, la prochaine histoire, c'est le...
C'est en décembre en tout cas.
C'est le 15. Ce sera le 15 décembre.
Ah voilà.
15 décembre. Voilà.
Je pose la question, oui. À savoir pourquoi ça s'est passé que dans ces pays.
Pourquoi? Parce que c'est mieux.